On est toujours sur Radio Esperanza et toujours les artistes qui passent nous rendre visite au studio de Radio Esperanza. Maintenant, on a Blik Basic qui était sur la scène côté jardin, qui a fait un concert d'une heure avec trois musiciens, compagnie de trois musiciens. Bonjour Blik Basic.
Bonjour.
Alors, moi, je voudrais commencer un peu par le début, parce qu'apparemment, il y a un passage de ta vie quand tu étais enfant qui t'a marqué assez fort, c'est que tu as été passé un séjour chez tes grands-parents dans un village plutôt reculé, si j'ai mm-hmm. bien compris, que tu as pris tu as subi un apprentissage culturel, mais agricole aussi, donc la vie un peu traditionnelle des villages retirés. En quoi ça t'a marqué, ce passage-là? Qu'est-ce que tu en retiens maintenant?
En fait, j'ai eu effectivement la chance de vivre dans ces environnements qui, pour moi, devraient être un passage obligé pour tous les vivants, parce que l'impact que ça a dans ma vie aujourd'hui est énorme. Lorsque j'étais gamin, je ne me rendais pas compte, j'en voulais à mon père qui avait assez de moyens de m'avoir envoyé chez un oncle où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau et tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on devait manger, on devait le chasser, on devait également apprendre à vivre avec d'autres vivants, c'est-à-dire l'humain a souvent la prétention de penser qu'il est l'un des vivants les plus importants de cet espace, mais non, en fait. Donc du coup, j'ai appris à tout simplement à regarder, à observer, à respecter d'autres vivants, mais également à tout simplement à vivre comme si le monde repartait de zéro, comme disait mon père. Donc j'ai eu vraiment la chance de vivre cela chez un de mes oncles pendant 4 ans, ensuite 3 ans avec mon grand-père au village. Et beaucoup plus tard, je pense, ces moments-là ont tout simplement participé à changer ma vie.
Tu penses qu'à la place d'un service militaire, on devrait faire quelque chose comme ça, être en contact avec la nature, avec la vie un peu plus basique?
Exactement, je pense que c'est ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire ramener les gens tout simplement à l'essentiel, à comprendre tout simplement ce pourquoi et comment est-ce que nous sommes faits, parce que nous sommes tellement éloignés des choses basiques aujourd'hui. Pour revenir à cela, ça coûte cher. On voit bien avec le bio, on voit bien avec d'ailleurs de l'eau qu'on nous vend dans des bouteilles en plastique, et pourtant l'eau, et c'est des choses vraiment élémentaires. Et donc je pense que on devrait, tout humain devrait vraiment passer par cette initiation à tout simplement connaître les autres vivants, quel est leur rôle, et aussi de nous enlever la prétention de penser, décider de la mauvaise ou la bonne herbe, par exemple. Mmh. Hein, c'est-à-dire, nous, par rapport à nos petits projets matériels et à notre petit bien-être matériel, on décide des choses comme si nous étions les maîtres de la nature.
Ouais, ouais. Et la nature va bientôt se retourner contre nous si on ne fait pas,
absolument.
Si on fait pas ce qu'il faut. Ouais. C'est clair. Alors, bon, après ça, il y a eu, j'imagine, tu es rentré à la ville, tu es rentré à Yaoundé, mm-hmm. j'imagine. Tu as commencé à faire de la musique et assez vite, tu as eu beaucoup de succès. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si c'était des groupes plutôt pop ou plutôt c'était des groupes de musique populaire, des groupes dans lesquels tu participais.
En fait, moi, j'ai commencé à faire la musique très vite, à chanter très tôt grâce à la chorale que ma mère, avait créé pour essayer tout simplement de ramener les villageois dans l'église que mon père avait construit. Mon père, dans le village qui est le nôtre aujourd'hui, est un espace qui était à peu près à 10 km du village natal de mon père. Donc il a acheté 300 hectares de terre qu'il a voulu urbaniser. Et à partir de ce moment, il a conçu une école, une église, un hôpital. Et donc, pour essayer de faire venir les gens des villages alentours à l'église, okay. Nous, puisque nous étions 21 enfants issus de trois femmes de mon père, donc on chantait tous les soirs, on apprenait toute la semaine des chansons d'église, des chorales de religion protestante qu'on chantait souvent le dimanche pour faire venir les gens. Et moi, c'est comme ça que je commence à chanter. Et donc, après mon bac, j'ai trois bourses d'études pour aller étudier en Occident, c'est-à-dire notamment aux États-Unis, en France, en Angleterre. Je refuse de partir, je décide de rester au Cameroun pour faire de la musique chez moi, parce que je me disais qu'il fallait d'abord que je construise et que je bâtisse quelque chose au Cameroun, ce qui était
une base d'abord,
absolument, ce qui était un scandale, puisque tous les gens, tous les enfants rêvent de partir majoritairement, et surtout que mes parents et les parents également veulent avoir des enfants qui font des études dans des grandes écoles occidentales. Et donc moi, je refuse de partir, je décide de rester au Cameroun pour faire la musique au Cameroun. Et donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Macaz, avec lequel j'ai fait 10 ans. Et nous avions, puisque nous avions décidé de ne faire de faire la musique comme notre métier, on a commencé à travailler de lundi à samedi de 10h à 19h tous les jours, ne sachant pas si on aurait un concert, mais puisqu'on avait décidé d'en faire un métier, il fallait qu'on travaille, qu'on sorte tous les jours de chez nous pour aller au travail.
Ouais.
Et après 5-6 ans avec ce groupe-là, le groupe a commencé à avoir pas mal de succès. Nous avons été pris ici-bas, pris RFI, et puis nous avons commencé à faire pas mal de concerts. Mais la musique, elle n'était pas pop, c'était vraiment un mélange de musique entre. D'ailleurs, nous chantions en 3 langues. Il y avait 3 chanteurs et chacun chantait en sa langue. Nous mélangeons vraiment des influences jazz, pop que nous avions. Soul et avec des musiques, des influences musique traditionnelles du Cameroun.
Ok, alors, je vais juste revenir sur un tout petit point. Ton père, là, qui avait urbanisé une zone, il était aussi prêcheur protestant ou non?
Non, non,
Il était
mon
propriétaire ou
père,
il
il était
était...
propriétaire et
D'accord.
il était gouverneur avant, ensuite commissaire divisionnaire. Et comme il avait été propriétaire terrien, il avait pas mal de moyens, donc il a acheté ce lieu-là qui est devenu notre
D'accord.
village ensuite et qu'il a voulu urbaniser. Et dans son envie de tout simplement urbaniser ce lieu, nous, c'est comme ça que
Ok.
je commence à chanter et rentre juste dans l'église, dans différentes églises, parce qu'au départ nous sommes catholiques, ensuite et puis moi j'ai été baptisé 7 fois de suite, puisqu'à chaque fois que mon père changeait de pasteur, on rentrait dans une nouvelle église et on nous baptisait, nous les gamins. Et
D'accord. En fait, je te demande ça parce que j'ai vu des parallèles avec la personne. Pour lequel tu as fait un hommage pour ton troisième album, Akko, qui est Skip James,
James,
qui est né dans une plantation, donc il a aussi cette culture agricole,
ouais.
et il avait son père qui était aussi un prêcheur
Ouais.
protestant, et donc c'est ça que j'essayais de faire des liens. Je sais pas si c'est ça que toi que tu as vu, c'est pour ça que tu as fait l'hommage à Skip James.
Non, pas du tout. Skip James, c'était vraiment. C'était sa voix qui m'avait complètement touché, et l'émotion qui se dégageait de sa musique et ce langage, cette émotion qui est un langage universel et qui avait parlé à mon cœur. Et puis, en écoutant, en regardant son histoire, en lisant son histoire, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un vraiment qui avait écrit des chansons incroyables, avait une émotion terrible, avec de super mélodies, mais qui a très mal vécu, qui n'a même pas pu profiter matériellement de tout ce qu'il avait pu faire, exactement comme la situation de beaucoup de musiciens aujourd'hui, parce que le métier que nous faisons est très très complexe. Moi, j'ai la chance d'être en tournée, de jouer ici, de faire des concerts, mais il y a beaucoup d'excellents musiciens qui ont du mal tout simplement à boucler leur fin du mois. Et cette situation me rappelait cette réalité de dire que nous faisons un métier complexe. Et que voilà, la société, autant pour les musiciens que pour d'autres, nous vivons dans une société qui est très très dure, où nous sommes faits tout simplement pour être des employables, nous sommes faits pour travailler, et l'essentiel, nous lui avons tourné le dos à l'essentiel. Et finalement, quand on regarde, c'est toutes ces choses-là créées grâce et avec le capitalisme qui finalement nous empoisonne dans ce que nous mangeons, dans la destruction de la nature. Et nous avançons les yeux complètement fermés vers un mur et nous y allons fermement, comme si nous savions exactement où nous allons, quoi.
Donc il y avait une sorte de masochisme presque.
Absolument.
D'accord. Donc tu as un nouvel album qui sort qui s'appelle 1958. Alors là, on passe à un autre personnage qui est
Ruben
Ruben
Niobe.
Oumniobé. Alors moi, je ne connais pas trop l'histoire du Cameroun, mais peut-être tu peux en quelques phrases nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la décolonisation a été facile ou a été violente?
Oui, en fait, ces derniers temps, j'ai vraiment du mal à appeler cet espace mon pays, parce que je pense que nous n'avons pas encore de pays. Nous vivons dans un espace qui est une espèce de prison à ciel ouvert, tout simplement par le fait que les gens qui vivent, c'est-à-dire tu es Camerounais aujourd'hui, tu vis au Cameroun, tu travailles dur, tu mets un peu d'argent de côté, tu as envie d'aller en vacances avec tes enfants, tu peux pas, ils te font un visa. Sauf si tu vas dans quelques pays qui vivent la même situation que toi. Mais si tu as envie d'aller aux États-Unis, tu peux pas. Tu veux aller en France, tu peux pas. Tu veux aller en Angleterre, tu ne peux pas. Tu veux aller en Australie, tu peux pas. Bref, comme un Français ou un Belge qui, tout simplement, met un peu d'argent de côté et a envie d'aller en vacances, quoi. Donc, et ces gens-là qui sont dans ces espaces et qui ne peuvent pas aller en vacances vivent dans les espaces où les frontières ont été créées par d'autres
En plus,
et où les visas qu'on leur impose, c'est les mêmes qui ont créé ces frontières, qui ont créé ce même système où ils doivent demander une autorisation et que selon la puissance de ton passeport, tu peux partir d'un endroit en autre, quoi. Et donc cet espace a été créé il y a plus d'une centaine d'années par des Portugais qui se baladaient dans le coin et qui décident d'appeler ce lieu Rio dos Camarões, c'est-à-dire la rivière de crevettes. Ensuite, les Français et les Allemands arrivent, ils vont l'appeler Rio dos Camarões, c'est trop long, ils vont l'appeler Cameroun, ils perdent la guerre, ils le deal avec la France et l'Angleterre, ils leur lèguent le pays, et le pays est divisé, une partie anglophone, une partie francophone. Et donc, des vivants qui étaient là, notamment Ruben Oumiobé, Félix Wandié, pardon, Ernest Wandié et Félix Moumié, décident de tout simplement se lever et de dire que ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'humain qui soit supérieur à d'autres et qu'on ne peut pas arriver ici et nous décider à notre place de notre autodétermination, de notre devenir, de notre futur. Et donc, ils décident tout simplement d'arrêter cette espèce de colonisation, parce qu'en plus, au Cameroun, il était sous mandat protectorat, il n'était même pas officiellement un pays colonisé. Et
D'accord.
donc, ils décident de s'émanciper de cela. Et la France n'était pas d'accord. Et en 1958, le 13 septembre, ils décident donc de tuer. Ils ont tué Ruben Oumiobé, qui tout simplement refusait d'accepter l'indépendance partielle. Parce qu'entre-temps, ils ont formé Ahmadou Ahidjo, qui est le premier président du Cameroun, le groupe dans lequel avait Paul Biya, qui est l'actuel président du Cameroun, et à qui on a demandé de demander l'indépendance partielle. Qu'est-ce que ça veut dire être partiellement indépendant? À moitié indépendant, l'autre moitié, non? Et donc, ceux qui se battaient vraiment pour l'indépendance totale, ils ont décidé de les tuer. Et donc, Ruben Oumiobé, Wandié, Moumié ont été exécutés. Après même l'indépendance, on a continué à faire disparaître tous ceux qui étaient soupçonnés d'être liés de près ou de loin à cette histoire. Et moi, mon grand-père, par exemple, avec ma mère, ont vécu presque 2 ans dans la forêt, se cachant, dormant d'un lieu à un autre tous les soirs, parce qu'on tuait les adultes qui venaient des villages voisins de celui d'Oumiobé. Et mon Oumiobé, son village était direct voisin de notre village. Et comment on torturait tous les adultes pour qu'ils disent où se cachaient ceux qu'on appelait les maquisards, c'est-à-dire des supporters d'Oumiobé et Oumiobé, puisque tous les villages avaient adhéré à leur cause. Donc voilà, c'est une histoire qui me lie directement. Et donc après la colonisation, ce qu'on appelait colonisation, parce que c'est comme si on dit à un moment donné, on donne la liberté aux gens, on donne pas elle s'arrache. À partir du moment où on décide de donner, ça veut dire qu'on prépare le terrain. Ça veut dire qu'il y a des stratégies pour que de toute manière, ce qu'on décide de signer là, que ça se passe pas réellement comme ça se devrait. Et donc ce qui se passe, c'est que nous appartenons à des espaces qui sont censés être des pays libres et qui ne le sont pas, parce que nous avons encore à la tête du pays quelqu'un qui était dans le groupe qui demandait une indépendance partielle et donc qui rend compte à la France, parce que ce président, il est encore là aujourd'hui, si la France décide qu'il n'est plus là, il n'est plus là. Donc nous continuons à vivre dans des espaces où les ordres viennent d'ailleurs, où les intérêts même de ce pays ne sont pas faits pour ses populations. C'est la raison pour laquelle notre président peut vivre 15 ans. Pendant 15 ans, depuis 15 ans, il vit presque à Genève,
Ah
avec plus de 50 personnes dans sa délégation, dans un hôtel, à
ouais.
l'intercontinental, à payer avec l'argent des Camerounais, et que pour les Suisses, ça reste normal, et qu'aucun pays ici, à un moment donné, se lève et dise que c'est pas possible, quoi. Et donc, à un moment donné, on voit bien que c'est des choses qui sont organisées sans parler du fait que tous les jeunes Camerounais, comme moi, parce que moi, ce qui m'amène à travailler sur ce projet, c'est tout simplement l'espèce de crise existentielle que j'ai et la crise identitaire. Je me dis, qui est-ce que je suis réellement? J'appartiens à un espace où, unanimement, on dit que c'est le continent le plus riche. Mais quand je vois ce qui se passe autour de moi, je vois que les gens n'arrivent pas à vivre, je vois que les gens meurent pour le petit mal de dents, tu vas à l'hôpital, tu crèves et tout. Et je me rends compte que tout simplement, nous vivons dans des espaces en fait où tous les différents modèles, puisque nous avions des modèles avec une médecine traditionnelle qui a été complètement diabolisée et qui a été rejetée, et où les gens aujourd'hui essaient de survivre sur une structure étrangère qui n'a rien à voir, qui n'est pas connectée avec leurs racines, qui n'a rien à voir avec leur modèle économique, leur modèle traditionnel, leur modèle politique, le modèle éducatif. Nous avons importé tous ces différents modèles dans lesquels nous essayons de survivre, en plus sur lesquels on nous demande de rendre des comptes, sachant que c'est des pays qui ont à peu près 50-60 ans d'existence. Je veux bien qu'on reparte pour voir quand la Belgique ou la France avait 60 ans d'existence, ce qui se passait. Ce n'était pas les guerres de barbarie, entre autres, quoi. Donc, ces espaces-là sont encore des espaces très jeunes, mais à qui on demande Et on dit, ouais, mais c'est la corruption de tel ou tel. Mais cette corruption-là, elle est complètement, elle était pensée. Parce que on voit bien qu'il y a la corruption même aux États-Unis. Mais dans des lieux qui ne sont pas organisés, c'est pire encore. Puisque derrière, c'est pour des intérêts, même pas pour les intérêts des Camerounais. C'est pour des intérêts étrangers. C'est la raison pour laquelle Bolloré peut faire au Cameroun presque tout ce qu'il veut. Il est le patron là-bas. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit au début que pour moi, c'est compliqué de dire c'est mon pays. C'est un espace où on vivant qui
D'accord.
appartient, en fait, qui a été créé pour servir encore aujourd'hui des intérêts d'autres personnes et dans lequel nous essayons petit à petit de survivre, quoi.
Enfin, quelque part au niveau du capitalisme, on est un peu tous logés à la même enseigne. Hein.
Maintenant, avec des spécificités différentes, ouais.
Voilà, des spécificités différentes, effectivement. Ouais. Alors, tu chantes en bassa,
Oui.
qui est, j'imagine, la langue d'une. C'est une grande partie, c'est une langue très usitée au Cameroun.
À peu près, je pense, sur 26 millions au Cameroun, on a à peu près 4 millions de Bassa.
D'accord.
Et il y a quelques grandes langues au Cameroun, dont le Bassa. Et ma démarche, c'est une démarche politique engagée aussi, mais également culturelle, parce que je me dis, le Bassa, c'est ma première langue, c'est ma langue de pensée. Et si j'ai envie de m'exprimer de manière sincère avec les gens, je le fais à travers cette langue-là. D'une, mais également parce que musicalement, mélodiquement, elle porte ces mélodies, elle porte ces rythmes qui, pour moi, sont intéressants de faire découvrir à d'autres humains et partir de ces spécificités, tout simplement, pour essayer de mettre une vibration qui se connecte à l'autre, mais également pour sensibiliser sur l'importance réelle de commencer à enseigner ces différentes langues chez nous, parce que quelqu'un qui est Bamileke, qui est Wondo, et qui, ou Douala, lorsqu'on se parle, on ne se comprend pas du tout. Donc majoritairement, on se parle en français ou en anglais aujourd'hui pour les gens qui viennent d'autres tribus pour se comprendre. Et malheureusement, cela crée la disparition de beaucoup, beaucoup de tribus également, et donc de traditions, de cultures, quoi. Donc ma démarche, elle est vraiment tout simplement de
Qu'est-ce que tu aimerais bien? C'est quoi ton objectif? On recrée des écoles Bassa,
Absolument, qu'on
des
commence à
écoles
rendre,
Bamileke.
absolument,
D'accord.
qu'on enseigne à ces populations, à travers ces langues-là, leur tradition, donc on leur enseigne qui ils sont réellement et leur histoire. Maintenant, à partir de ce moment-là, de pouvoir aller beaucoup plus loin, exactement comme l'a fait la Chine, qu'on voit bien avec des pays comme le Japon, la Chine, qui sont autant traditionnels que modernes, d'une puissance incroyable. Mais ça, on ne peut être moderne que si on est fortement ancré dans ces traditions.
Alors, j'ai entendu une anecdote à propos du fait que tu chantais en bassa, que une de tes chansons a servi à une publicité pour l'iPhone, je sais plus quoi.
iPhone 6,
Et que aux États-Unis, il y avait des bassas qui ont entendu la chanson et qui étaient très étonnés d'entendre comme ça dans une publicité une
Absolument.
chanson en bassa. C'est une histoire vraie, ça?
Oui, c'est un ami qui regarde Super Bowl et pendant le match, il y a une pub qui passe, la pub d'iPhone 6.
Pendant le Super Bowl, donc c'est un public
Absolument.
gigantesque, quoi.
Exactement. Et lui, il regarde à la télé et entre deux matchs, il entend la pub qui passe avec sa langue et il crie, il appelle sa femme, il devient fou. Et je peux comprendre, oui, absolument. Oui, pour moi, c'était une belle opportunité, notamment par le fait que cela est venu tout simplement renforcer ma démarche, hein, tout simplement de dire qu'il est important de pouvoir s'émanciper du standard préétabli par notre société. Et d'assumer qui on est réellement. Parce que en Afrique ou ici, l'un des maux de notre société, c'est que on nous a imposé une manière d'être, des manières de faire, de nous habiller, de parler, de nous exprimer, de choisir, parce qu'on pense être
Une
libre de
culture,
choix.
quoi. On nous a imposé la culture dominante américaine.
Absolument. Et même les Américains, parce que même eux-mêmes, les Américains, ils ne sont pas libres de leur choix. C'est-à-dire, quand tu es Américain aujourd'hui et que tu as envie de t'habiller, tu t'habilles par rapport à comment est-ce que je vais être jugé en tant qu'homme. Est-ce que si je mets une jupe, qu'est-ce qu'on va dire? Si je me mets différemment, qu'est-ce que vont penser les uns et les autres? Donc les gens, non seulement une manière de s'habiller, une manière de parler, la manière de se comporter, mais en plus avec des signaux et des éléments matériels qui nous rappellent tous les jours comment on doit être, de ne pas être nous-mêmes, puisque nous sommes chacun de nous des êtres singuliers. Et c'est à partir du moment où on se met à faire vivre cette singularité, notre société serait incroyable. On verrait des couleurs incroyables dans la rue, on entendrait des sons, des choses, mais vraiment magnifiques. Mais le problème, c'est que tout le monde se plie au standard préétabli qui nous dit que c'est comme ça, les hommes doivent s'habiller comme ça, les femmes doivent s'habiller comme ça, les uns doivent et les autres doivent faire comme ça. Et du coup, même le choix, on pense faire des choix, mais nos choix sont d'abord corrompus par le modèle préétabli dans lequel on part. Et du coup, ça va beaucoup plus loin parce que même dans les métiers que nous faisons, il faut que j'ai un métier qui a un métier bien, normal, sérieux. Ainsi de suite, sérieux. Et donc, finalement, on se met à vivre pour les autres et mourir seul, quoi. Et moi, ce que j'essaye de faire depuis quelques années aussi, c'est tout simplement de m'émanciper de ça et de me créer un couloir de vie qui m'amènerait peut-être vers la liberté, parce que c'est difficile d'être libre. Mais si on n'est pas conscient du fait que mes choix d'habillement, d'être, de me porter, de parler, d'analyse même et de perspective sur différents événements doivent partir de mes propres choix, on commence à être libre à partir du moment où on est dans cette démarche qui est très très difficile parce que, comme je le dis, les publicités, des éléments quotidiens qui nous rappellent que non, 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 et puis le regard des,
là, je suis
de ceux qui sont malades, quoi, parce que tous ceux-là qui sont malades regardent celui qui essaie de sortir de la maladie comme un type bizarre.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Un des remèdes au problème actuel, ce serait de vraiment beaucoup plus mettre des lois autour de la publicité, parce que c'est vrai que c'est un espèce de cancer culturel, un cancer.
Bien sûr, il y a des messages. D'accord. Il y a des messages et puis des suggestions qui. Mais même juste ce que les couleurs font à nos têtes, à nos mémoires, à nos yeux, ne sont pas faits au départ avec tout cela, puisque nous avons détruit toute la nature. Nous sommes loin et nous vivons aujourd'hui au centre des blocs qui représentent des couleurs, qui représentent des choses. Et nous nous sommes complètement éloignés réellement de l'environnement pour lequel on a été fait. Et comme maintenant, d'ailleurs, pour repartir vivre près d'un jardin, ça coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire, on a détruit cela et maintenant, pour revenir à ça, il faut payer cher, exactement comme lorsqu'on nous dit de manger bio. c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, ce qui était naturel au départ, on nous éloigne de ça. Et puis maintenant, pour revenir à ça, il faut payer très cher.
Ouais, tout à fait. Alors, moi, des symptômes que je vois de ta liberté, c'est que tu viens jouer de la musique africaine, on va dire, en tout cas avec des éléments africains, sans aucun rythme, sans aucune percussion, alors que pour nous, en tout cas dans notre inconscient collectif, la musique africaine, c'est quand même les rythmes et tout.
Absolument. Ouais.
Et alors là, tu viens jouer sans aucun rythme. Et alors moi, je te remercie parce que ça déjà, c'est un peu reposant aussi d'avoir pas toujours un rythme qui devient roboratif et qui, à la fin, te rend un petit peu mouton, quoi, d'avoir toujours un rythme comme ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant.
En fait, pour moi, ça part tout simplement de ma démarche de m'émancipation, comme je disais, des codes, mais aujourd'hui, également de partir de la perspective qui est la mienne. Et c'est vraiment, ça reflète la démarche de vie dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est tout simplement de redéfinir et redonner du contenu par moi-même aux choses. C'est-à-dire de dire, par exemple, que dans ce que je fais, le rythme peut être porté par ma langue. Le rythme peut être porté par un trombone, par un violoncelle. Et que je décide de ne pas forcément utiliser les instruments qui sont prédéfinis comme des instruments à rythme nous portons tous un rythme, notre manière de marcher, notre manière de regarder, de bouger, de faire des choses, de parler. Il y a une rythmique dans tout cela. Et comment est-ce que moi, musicalement, je m'émancipe un peu des choses qui sont censées être porteurs prédéfinis comme de manière standardisée comme des instruments à rythme pour aller rechercher une rythmique qui soit complètement différente et ailleurs. Et c'est vraiment, c'est en fait. Et en plus, c'est des choses qui ne sont pas préméditées, mais qui partent tout simplement de la nouvelle perspective dans laquelle je vis, qui est tout simplement de regarder des choses et essayer de manière presque naturelle redonner le sens qui est le mien. Quoi.
D'accord. Alors, une petite question au niveau du concert. Tu te mets assez en arrière. Tu as pris une position assez en arrière. J'imagine que c'est pour faire une espèce de... comment est-ce qu'on appelle ça, une assemblée, enfin, où tout le monde se voit, où vous pouvez vous voir pour jouer, ou c'est une manière de ne pas être trop devant, tu ne veux pas être trop devant dans la lumière?
C'est toujours, ça rejoint toujours ma perspective de comment de faire les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, en général, l'artiste est devant, si les musiciens sont derrière, mais ça peut être l'inverse aussi. Le plus important, c'est le message que je passe. Je pense que ma personne, elle n'est même pas importante. Moi, c'est le médium que je suis qui est important, c'est-à-dire le médium. Ce que je transmets avec le message que je porte, pour moi, sont les choses les plus importantes. Donc, si je peux mettre en lumière ceux qui m'accompagnent dans cette aventure, qui sont mes musiciens, et de ne pas, moi, forcément être celui qui porte à l'avant et sur qui les lumières sont, parce que c'est aussi des choses qui, à un moment donné, je pense, poussent notre ego à nous faire croire que nous sommes un humain incroyable et supérieur à d'autres. Pourtant, non, nous essayons tout simplement chacun à notre niveau de porter un message, de porter une démarche, et c'est ce qui est important.
D'accord. Alors, toute dernière question, la thématique du festival cette année-ci, c'est démasquons nos propres privilèges. Est-ce que tu te sens privilégié, toi?
Oui, je me sens. Moi, je vis dans un tout petit village près de Saint-Émilion, dans le sud-ouest de la France. Je me sens privilégié parce que je profite des privilèges de la société française qui, elle, continue malheureusement à piller des pays où les gens crèvent parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire, où des gens crèvent tout simplement par quête de liberté, parce qu'ils veulent être libres, ils meurent en Méditerranée, ils veulent fuir de ces prisons à ciel ouvert, comme je décrivais tout à l'heure. Et je profite absolument de ces privilèges, et ça fait partie des questions que je me pose tous les jours. Comment m'émanciper? Et comment contribuer à ce que, de manière égale, nous puissions tous bénéficier du plus petit privilège, et qu'il n'y ait pas de privilèges, des privilégiés suprêmes dans des sociétés qui, malheureusement, pour essayer de continuer à garder cela. Parce que quand on va regarder, moi je regarde souvent les politiques et je me dis, beaucoup sont au courant de pas mal de choses de réelles, et du fait, par exemple, que la France importe plus de 90% de pétrole. Et que si les pays où la France importe ce pétrole-là aujourd'hui décident de faire un deal normal avec la France, ça va être très compliqué. Et les politiques le savent. Mais ils ne peuvent pas dire à leur population que, ben, en fait, les gars, là, si nous décidons tout simplement de faire bien les choses, parce que même les gens que vous appelez immigrés, ils viennent ici parce que nous pillons leur pays. Ils suivent les biens que nous prenons là-bas. Et si nous décidons de faire les choses de manière égalitaire, en fait, va vous falloir tout simplement sortir de tous les privilèges dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Parce que couper les livraisons de pétrole veut dire que les supermarchés ne seront plus ravitaillés par les gros camions qui en ont besoin, ou ça va coûter super cher, et que toi, qui gagne un peu d'argent, 1 000 euros par mois, bah, si tu as une voiture et que tu vis dans un petit village, ton essence va te coûter plus de 300 euros de ton budget. Ça devient très, 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 très dur. Donc, ils sont au courant de ces réalités, mais ils ne le disent pas parce qu'ils savent que sinon, ils ne vont pas être élus. Pourtant, à un moment donné, il va falloir bien s'arrêter et réfléchir, et de dire que, de toute manière, désormais, nous portons une histoire commune. Comment nous la menons ensemble pour que nos arrière-petits-enfants puissent vivre en paix?
Ouais. Ok. Ah bah, je crois qu'on va terminer avec ça. Un grand merci
Merci à toi.
et une bonne chance pour la suite.
Merci.